Sportez-vous bien. Sportez-vous bien. L'actualité sportive commentée par Jean Sureda.
Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans Sportez-vous bien sur Radio Présence. Nous sommes ensemble pendant une heure pour débattre avec mes chroniqueurs de l'actualité sportive de la semaine. Le tout accompagné de sportifs de haut niveau. Au programme aujourd'hui, vous avez bien évidemment l'habitude, les mythiques coups de cœur et coups de gueule de nos chroniqueurs. Lucas Serdic, qui n'est pas en retard, nous donnera l'agenda de la semaine et le débat avec le tennis et le début de Roland-Garros 2019 la semaine prochaine. Enfin, nous recevrons David Pénèche, ancien arbitre assistant de la FIFA. Avec nous ce soir, Mehdi Guillaume. Bonsoir Mehdi.
Bonsoir Jean.
Lucas Serdic, bonsoir Lucas.
Bonsoir.
Maxime Brossard, bonsoir Maxime.
Salut.
Et Timothée Rouvière, bonsoir Timothée.
Bonsoir Jean.
Je tiens à vous féliciter Lucas Serdic pour... Vous êtes arrivé même presque en avance, j'ai envie
mais
de dire.
Mais les auditeurs sont tous surpris parce qu'ils ne m'ont jamais entendu en retard.
Jamais. Toujours sur le gang.
Il a toujours été là.
Non, non, non.
Dans
non,
les
non,
temps.
Non, non, je suis pas d'accord.
Essoufflé,
oui,
en sueur,
souvent, ouais.
Mais dans les temps. Toujours.
Oui, toujours. Oui.
Bon, et on va parler bien évidemment de notre ping-ponguette.
Oh là là. C'est,
voilà, on commence à avoir l'habitude, on joue toujours au ping-pong, au tennis de table.
Faut absolument qu'il y ait les images sur la page Facebook. Parce
ouais.
que pour
on va filmer
les gens,
ça.
Les gens s'interrogent. Quoi.
Non, non, parce qu'on va être recruté.
C'est vrai,
en fait, on va être recruté.
Non, mais il y a trop d'escroqueries, après on aurait des problèmes. Voilà. Je tiens à signaler qu'on est obligé de laisser des sets au chef pour qu'on puisse parler dans l'émission.
Il nous coupe le micro.
Incroyable. Quel dictateur ce genre.
Et aujourd'hui, donc voilà, j'ai gagné. Bon, un set, mais
sur set disputé.
Sur set ouais. disputé. Ah oui, c'est vrai que j'en ai perdu deux contre.
Bah oui.
J'ai perdu 11-9 deux fois
contre. Ah, Timothée va pas trop parler.
C'est le show Montbéliard du ping-pong de Radio Présence.
C'est bien d'en reparler parce qu'on est maintenu et on va jouer à Rodez à Bastia la saison prochaine.
C'est beau ça.
Vous allez pas jouer à Rodez à Bastia, j'ai des infos.
C'est vrai.
Ah, vous lisez pas la dépêche du midi, enfin.
Mais j'attends d'avoir des nouvelles de votre part.
Et ben voilà.
Toujours.
Non, c'est très 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 bien parti pour qu'il joue au Stadium.
Bah heureusement.
Tout est quasiment acté. Mais bon,
le
je
TFC au Stadium, je pleure déjà.
Enfin du foot au Stadium, super.
Voilà. Exactement.
Normalement.
Bon.
Pour les 7 premiers matchs de la saison à domicile, comme c'est prévu, donc à peu près de fin juillet jusqu'à on va dire début novembre.
Bon.
À peu près.
Et on espère
qu'on ira les voir.
Bien sûr qu'on ira les voir. Il y aura alternance entre
la Ligue 1 et la Ligue 2. Ouais,
tout ouais. à fait, entre le calendrier du TFC et celui du Rodez.
Bon, messieurs, on prendra la revanche pour le tennis de table la semaine prochaine. Est-ce que vous voulez pas venir encore plus en avance une fois, histoire que je vous apprenne un petit peu à jouer au ping-pong.
Deux, trois skills, là.
Parce qu'en fait, on va le dire pour nos auditeurs, parce qu'on parle de Mehdi, on parle de Timothée, mais Maxime, c'est une bille. Hein.
Ah, bon, moi, j'ai déjà les sports de raquettes, j'ai horreur de ça. Donc là, vous m'entendrez pas sur le débat tennis non plus. Je sais pas, moi j'aime bien les sports ballon, tout ça, quoi, mais pas la raquette, c'est un corps étranger pour moi.
Le tennis ballon à la limite.
Oui, là c'est pas mal, j'aime bien le tennis ballon.
Ouais. Moi je me fais les croisés si je vois ça. Voilà, je fais le ballon.
Le coccyx aussi.
Bon, tout le monde est en place, messieurs, on peut démarrer avec les coups de cœur et les coups de gueule.
Sportez-vous bien, les coups de cœur et les coups de gueule.
Comme chaque lundi, vous nous parlez d'un événement sportif qui vous a marqué, un exploit, une déception. C'est mitigé, c'est du 50-50. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu du 50-50. Hein. Vous étiez plutôt heureux ces dernières semaines. Il y a deux coups de cœur, deux coups de gueule. Alors on va commencer quand même par un coup de cœur. Même peut-être un troisième coup de cœur, à la fin.
Bonne humeur.
Voilà, on verra bien, parce que c'est vrai que votre coup de cœur, on va en parler. Votre coup de gueule,
on va en parler.
Mehdi Guillaume, je me tourne vers vous. Votre coup de cœur, on va parler de basket, on va parler de Ligue des Champions de basket, l'Euroleague.
Et j'ai envie de dire de vrai basket pour une fois, parce que c'est le.
On parle pas de NBA, oui.
Exactement, c'est le basket Euroleague, c'est le. Comment dire ça, c'est les vraies règles du basket, ce qu'on voit la plupart du temps en FIBA. Et ce week-end, il y a le Final Four de l'Euroleague.
Vous voulez dire qu'il siffle les marchés là-bas, c'est ça ?
Et voilà. C'est deux pas trois. À NBA, trois, ça peut être autorisé. Là non. C'est même sur la prise de balle, il y a des marchés qui peuvent être très rapidement sifflés. Donc c'est le Final Four, donc c'est l'équivalent de la Ligue des Champions, l'Euroleague, même si c'est une ligue privée. La finale,
il y a très peu de clubs français,
il y en a zéro.
Il y en a peut-être un l'année prochaine grâce à Tony Parker.
Ouais. L'ASVEL qui intégrera.
Je fais le malin, mais vous me l'avez dit il n'y a pas longtemps, c'est pour ça.
Donc la finale, c'était à Vitoria, et comme tous les ans, quand on aime le basket, c'est vraiment une régalade parce qu'on voit 4 matchs de haut niveau, même s'il y a un match pour la 3e classe qui est un peu plus guinguette. Et dans tous les cas, on savait qu'il y avait un Français qui allait gagner, parce qu'il y avait 5 Français dans 4 équipes différentes. Donc il y avait Moerman, Lauvergne, Causeur, De Colo et Beaubois. Donc forcément, il y en a un qui a gagné. Et c'est De Colo qui a remporté
le
trophée avec le CSK Moscou. Exactement, c'est son deuxième trophée. Lui, il l'avait déjà gagné en 2016.
Le niveau du CSK Moscou en basket, c'est le Real, le Barça. On est d'accord. Hein.
Ça fait partie des 3-4 meilleures équipes d'Europe sur les 15-20 dernières années. Il y a beaucoup d'argent mis là-dedans. Même les salaires se rapprochent de la NBA. Et donc De Colo n'est même pas passé loin du titre de MVP, donc de meilleur joueur du week-end. Ça a été finalement Cliburn, un de ses coéquipiers. Mais honnêtement, ça s'est joué un peu à la pièce, quoi. Les deux joueurs ont joué au même niveau. Après, il avait déjà eu cette récompense lors de la dernière victoire en 2016. Il a été deux fois meilleur joueur, donc MVP, de la saison régulière, parce qu'il y a une saison régulière en Euroleague.
Donc ils ont été fair play et puis ils ont dit bon, on va tourner un peu, quoi.
Exactement, un Américain pour une fois, on a marre de mettre des Européens. Mais ouais, c'est une grande nouvelle parce qu'on rappelle quand même qu'en septembre, il y a un petit championnat du monde de basket. Ouais. Voilà, qui se déroulera en Chine.
Il y a beaucoup de championnats du monde en septembre, le rugby, le basket, il y aura cet été le foot féminin.
Et de voir des Français à ce niveau-là, c'est plutôt rassurant. Voilà, il y a ceux de la NBA, mais il y a aussi ceux de l'Euroleague, il ne faut pas l'oublier.
Maxime Brossard.
Alors, j'avais une question pour vous, Mehdi, qui suivait le basket. Vous parliez de différence de niveau, de vraies règles. Et vu qu'on voit que des fois qu'il y a une différence de niveau, notamment entre l'équipe des États-Unis et le reste du monde, mais en club, si une franchise de NBA venait à rencontrer un club européen, Moscou par exemple, à votre avis qui s'imposerait?
Alors
ça dépend des règles.
Sous quelles règles?
D'accord.
Si on prend les règles NBA, je pense que les meilleures équipes d'Europe peuvent battre peut-être les 2-3 plus faibles équipes de NBA. D'accord. Et quand elles font à l'intersaison des matchs amicaux, c'est ce qui peut arriver.
Oui.
Par exemple, en ce moment, des équipes qui sont très faibles comme Cleveland, Phoenix, New York, c'est peut-être pas bien meilleur que des grandes équipes d'Euroleague, quoi.
L'Euroleague, le Final Four d'Euroleague, il vaut quoi?
Non, mais c'est exactement ce que vient de dire Mehdi, ça dépend des règles. Ça dépend des règles. Autant au niveau des nations, les États-Unis seront toujours au-dessus des autres parce que voilà, ils ont un tel vivier qu'il n'y aura jamais photo. Mais au niveau des matchs, un match défensif européen, si on applique les bonnes règles, il y a beaucoup d'équipes NBA qui vont avoir du mal quand même à s'en dépêtrer, quoi.
C'est exactement ça. Et juste, je rajouterais que les Américains gagnent parce qu'ils envoient vraiment les meilleurs joueurs du monde. Et même parfois, ils galèrent avec les règles FIBA. Et on voit normalement des écarts, ça devrait être 50 points, on n'en voit que 15-20 parce qu'ils peuvent avoir du mal.
On va changer de sport et je vois Maxime Brossard. Maxime Brossard, il est arrivé à la radio tout à l'heure. Ouais. Il y avait le smile, il y avait le sourire.
Ouais, ça va, j'ai encore.
Et là. Là, le visage s'est fermé.
Un peu, ouais.
Il s'est mis sur l'ordinateur et il a mis chez nos confrères de l'équipe le match de hockey sur glace. Vous nous en avez parlé
ces dernières semaines,
même la semaine dernière, je crois.
Oui, j'avais fait un rappel. Ouais.
Voilà, là, c'est un coup de gueule parce que l'équipe de France, c'est tout frais, ça date même pas d'il y a une heure. C'est incliné.
30 minutes.
C'est incliné contre la Grande-Bretagne et est relégué.
Ouais, c'est officiel, ouais, ça y est, il descend.
Quelle défaite, quoi.
Eh ben oui, c'est-à-dire que c'est un peu la même physionomie que le match contre le Danemark qu'on devait gagner. On était devant au score. Là, en concurrence, il y avait 3-0 dans le deuxième tiers. Et puis, on s'est fait rattraper par la Grande-Bretagne. Et ensuite, on est parti en prolongation et on a perdu 4-3. Et donc, c'était un match décisif pour pouvoir rester dans la division élite. Et malheureusement, les hommes de Philippe Bauzon vont descendre.
En plus, face aux British, quoi.
Ouais, c'est clair, c'était n'importe quoi, cette équipe. Comme je disais à Mehdi, on aurait dit qu'ils avaient pris des hooligans de Millwall ou de QPR. Ils les avaient mis sur des patins à glace. Enfin, c'était n'importe quoi. J'avais jamais vu des types aussi manches jouer. Mais bon, que voulez-vous ? Il y en a un manque de confiance, manque de solidité défensive et de physique, surtout. Sur toutes les mises en échec, on a fini le cul sur la glace. Donc bon, comme ça, vous pouvez pas gagner au hockey.
Ça fait combien de temps que la France n'a pas été reléguée
Ça fait un petit moment, mais c'est surtout qu'on réussissait à se maintenir. À se maintenir, et même on avait réussi à battre la Finlande l'année dernière, on avait fait quelques exploits, mais là, sans les joueurs NHL, ça a été trop compliqué.
Timothée Rouvière.
Et voilà, comme le disait Maxime, à chaque fois, on avait réussi à sortir une performance lors de ces championnats du monde. On avait battu la Finlande, le Canada, je crois, une année. Et là, il n'y a aucun moment où on a l'impression qu'on a pu rivaliser avec ces équipes. Donc,
c'est un creux de génération.
Non, c'est juste que là je pense que l'absence des joueurs de NHL a fait vraiment défaut et que les joueurs qui sont en Ligue Magnus ou dans les ligues européennes, ils sont pas forcément au même niveau que les autres. Après, vraiment, cette défaite contre la Grande-Bretagne, j'ai pas envie de dire c'est une honte, mais c'est illogique, c'est totalement illogique.
Donc on verra, on suivra, on continuera de suivre la performance de l'équipe de France de hockey sur glace, donc au niveau inférieur. Je me tourne vers vous, Timothée Rouvière. Vous avez le sourire, et comment ne pas l'avoir quand on aime le football, quand on aime le football féminin, à quelques mois, donc quelques semaines même de la Coupe du Monde de la FIFA en France. Coup de cœur sur l'Olympique Lyonnais qui est, pour la quatrième fois de suite, la sixième de son histoire, championne d'Europe, vainqueur de la Ligue des Champions.
Oui, c'est la finale de la Ligue des Champions ce week-end à Budapest, samedi. Dans les commentaires d'avant-match, les commentateurs disaient attention, c'est Barcelone, il y a une attaquante néerlandaise, Lyon peut tomber, etc. Mais tout simplement, en 30 minutes, ça a été plié.
4-0
en une demi-heure. Un triplé d'Ada Hegerberg, qui est l'attaquante norvégienne, qui n'a pas été retenue par son équipe pour le mondial parce qu'elle a décidé de. Elle a eu un conflit avec sa fédération. Mais voilà, triplé d'Ada Hegerberg, qui est le ballon d'or féminin, le premier ballon d'or de l'histoire, qui claque 3 buts. Et après, un but de Jennifer Marozan, qui a été élue hier meilleure joueuse de première division. Et après, la maîtrise de Lyon. Un petit but barcelonais à la fin du match, mais c'est anecdotique.
Pour être gentil, quoi.
Lyon qui domine, comme vous le disiez, 4 fois d'affilée championne d'Europe. Il y a plein de joueuses françaises qui sont dans cette équipe. Je pense à Jenny Le Sommer, à Amandine Henry, Sarah Boadi, Wendy Renard, Kretchen Bok. Et c'est de bon augure pour la Coupe du Monde féminine qui commence dans moins d'un mois.
Lucas Cervic.
Là où je suis un tout petit peu inquiet, c'est que ce sont les mêmes joueuses françaises depuis un moment. Et on n'en ressort pas beaucoup. On va chercher des très bonnes joueuses à l'étranger. Il y a des grands espoirs, évidemment. Mais peut-être qu'on pourrait aller chercher un peu plus. Ils marchent sur l'Europe, c'est très bien, les Lyonnais. D'ailleurs, en parlant de ça, Olas, ça le dérange un peu plus quand c'est Paris chez les hommes que quand c'est Lyon chez les filles.
Oui,
l'hyperdomination. Mais bon, ça, c'est juste pour donner un petit tacle à notre confrère lyonnais.
Moi, j'attends de voir dans les prochaines années parce que Lyon avait 10-12 ans d'avance sur tout le monde.
Les grands clubs
vont s'y mettre. Manchester a annoncé qu'ils allaient monter une équipe féminine avec déjà un très très gros budget. Le Milan C aussi va suivre.
Le Barça vient
de jouer sa première finale.
Il y a toujours le Bayern.
Le Barça, honnêtement, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire qu'on se met derrière, on attend et on joue le contre. Et c'était même annoncé avant le début du match. Malheureusement, ils en ont pris 4. Peut-être que ça changera avec l'afflux d'argent. Mais voilà, j'attends de voir. Peut-être qu'avec un peu plus de concurrence, elles auront peut-être un peu plus de mal, voir comment elles vont réagir, les Lyonnaises.
Ouais. Pour conclure, Timothée Rouillet.
Oui, en tout cas, c'est bien de voir que les clubs européens se mettent à la page du football féminin. Paris met de gros moyens. Il y a Lyon, il y a d'autres clubs qui montent. Donc
ce serait bien qu'en France, on ait un peu plus de clubs aussi.
Qui
puissent plus de compétitions égales. Pour l'instant, il y a 3 clubs et encore 3 parce qu'on dit que Montpellier, voilà, historiquement, ça reste bon. Mais voilà, il y a vraiment
Lyon et Paris
un petit peu en dessous. Et sinon, le reste, c'est un peu le désert.
En parlant de Paris, je me tourne vers vous, Lucas Cerdic. C'est un coup de gueule. Hier, il y avait les trophées UNFP. Qui a récompensé 2 fois Kylian Mbappé, 3 fois même.
Ça m'a énervé.
Il y a eu le titre de meilleur jeune, de meilleur joueur et dans l'équipe type. 3 trophées pour Kylian Mbappé. Mais personne n'a retenu ça. Tout le monde a retenu sa déclaration, cette bombe lâchée en direct sur Beansport.
Oui, il dit, monsieur, qu'il aimerait bien être mieux considéré, quoi, en somme. Ou alors, je m'en vais. Bon, voilà. On a loué pendant très longtemps, à juste titre, sa maturité, sa façon de s'exprimer, qui détonnait un petit peu avec le reste, c'est très bien. Mais là, je sais pas. Je sais pas ce qui lui passe par la tête, pour qui il se prend exactement. Aujourd'hui, il vient pour recevoir un trophée dans une soirée festive, et devant ses coéquipiers, il dit en gros, Cavani, je veux être numéro 9 à ta place. Ouais. À Neymar, je veux être le chef à ta place,
avoir le salaire de Neymar,
il veut être la tête de gondole de l'équipe. Enfin, je sais pas ce qu'il lui prend. Il a 20 balais, il a plombé l'équipe face à Manchester. Faut arrêter de se voiler la face. Il loupe, je sais pas combien d'occasions,
trois face à face,
incroyable. Hein, ouais. C'est lui qui quelque part élimine son équipe, même s'il y a eu plein de facteurs. Oui, il marque à l'aller, pas encore heureux. Il est numéro 9, on lui fait un ballon, il est devant, il met le plat du pied. Bon, c'est pas non plus la folie, hein, ce qu'il a fait. Il a fait beaucoup mieux avec Monaco lors de la campagne de Monaco, ils vont en demi-finale, qu'en 2 ans avec Paris en Ligue des Champions. Bon, ça reste un prodige, évidemment qu'il doit être bien considéré, mais il l'est déjà à Paris. Et là, il envoie vraiment un mauvais message. Bientôt, il va demander à Deschamps de virer Griezmann, quoi. Il va dire, c'est bon, c'est moi qui fais l'équipe. Non, mais c'est en vrai, franchement, Jean, on n'est vraiment pas loin de ça, quoi. À part à Neymar, qu'il cherche un petit peu à faire briller, le reste il s'en fout de pas en foutre, il préfère marquer que de foutre une passe, quoi. C'est ce qui se voit cette année. Pour moi, c'est criant, mais bon, voilà, peut-être que je me trompe.
Timothée Rouvière, Lionel Messi a souvent eu des, on peut appeler ça un caprice, hein, de la part de Kylian Mbappé.
Ah, mais Messi, il en a jamais eu, hein.
Messi en a fait quelques-uns. Cristiano Ronaldo,
quoi, Messi a fait un caprice,
il a réussi à virer des entraîneurs à lui tout seul. Messi, ça c'est moins, mais
Messi, il a non, mais il à... le dit pas comme
comme ça.
Ah non, jamais.
Ah non.
C'est pas un caprice. Enfin, elle le fait dans voilà, de, peut-être dans, au
Cristiano
au
Ronaldo
de
l'a fait le jour de la finale de la Ligue des Champions. Cristiano Ronaldo l'a fait. Est-ce que Mbappé rentre dans cette catégorie
Cristiano. Moi, je pense que c'est. Faut pas comparer. C'est vrai qu'il a Mbappé. C'est un joueur formidable. C'est un joueur qui avait une certaine sympathie auprès du public français. Et là, depuis la blessure de Neymar et depuis le début de l'année 2019, j'ai l'impression qu'il perd pied. Alors, pas sportivement parlant, hein. Mmh. Ok, il est champion du monde, pas sportivement parlant, il enchaîne les buts, il est à 32, je crois, oui. Messi à 36. Bon, il aura pas le soulier d'or, heureusement, ça risque de lui monter la tête. Mais voilà, mais après, il a perdu son âme, moi, ce garçon.
Ouais, est-ce qu'on a un problème c'est un peu le même cas que Thierry Henry, c'est-à-dire un mec qui est conscient de ce qu'on entend, de ce qu'on voit, conscient de ses qualités. Il a le problème d'être français. On va mettre les pieds dans le plat. Est-ce que son problème, c'est d'être français, c'est-à-dire d'avoir un minimum d'ambition, d'audace, de machin, et ça gêne.
Il a le problème d'avoir vu peut-être Cristiano Ronaldo être à fond dans ses stats, etc. Et ouais. C'est ce qui lui arrive, sauf que Cristiano Ronaldo,
le problème vient de là.
L'a fait à 27-28 ans, lui il le fait à 20 ans, et il n'a pas gagné de Ligue des Champions.
Mais oui, Cristiano Ronaldo, il l'a fait après 2008, une fois qu'il avait déjà un Ballon d'Or et une voilà. C1 qu'il avait fait gagner à Manchester United. Voilà, c'est
Chelsea,
tout.
Ouais.
Kylian Mbappé, il a le droit de vouloir être considéré à sa juste valeur. Pour moi, il l'est déjà. Il est titulaire indiscutable à Paris. Il est le deuxième salaire du club. Il a 20 ans. On fait jouer l'équipe presque pour lui. Neymar s'est presque transformé en passeur cette année pour lui.
Ah oui, enfin, clairement.
Ça suffit, quoi. Cavani s'efface. Tout le monde le joue pour lui. C'est bon, le gars. Qu'est-ce qu'il veut maintenant, là? Il nous fait quoi? Merci. Il sait que le Real est à l'affût de la moindre phrase, ouais, en plus. Sûr. Ça suffit, quoi.
Maxime Brossard.
Ah non, c'est juste pour dire, ouais, c'est à l'image un peu de foot qui prend la dimension du business, des chiffres, des stats, et puis lui c'est un mec qui veut aller vite, qui veut avancer vite. On se demande si à ce niveau-là à 25 ans il sera pas à la retraite, donc je sais pas, faut voir, mais au bout d'un moment il va falloir.
Moi je pense qu'à 25 ans il sera joueur sélectionneur,
ouais. Entraîneur joueur, tu sais, comme en district,
voilà, entraîneur joueur de l'équipe de France, pourquoi pas, hein.
Timothée Rouillard, pour conclure,
ce qui va surtout être compliqué, c'est pour Paris de gérer Mbappé, de gérer Neymar, comment l'entraîneur va se positionner suite aux déclarations. Quelle va être la décision du club?
Un geste fort, ce serait de le vendre au juste prix, mais je peux dire qu'à la Juve, la question se poserait même pas. Merci, exactement. Au revoir, monsieur. Vous payez le prix, par contre.
Mais ça prouve que le PSG n'est peut-être pas un grand club.
Il a peut-être l'occasion de le montrer. Voilà. En plus, il répondait pas à une question d'un journaliste Vislar, quoi.
Ah non, c'était prémédité, ça c'est sûr. C'était prémédité.
C'était pensé, c'était réfléchi. Enfin, le mec, il a craqué.
On se retrouve, nous, messieurs, dans moins de 4 minutes. On sera pas avec Kylian Mbappé, mais c'est pour l'agenda de la semaine. À tout de suite.
c'était Offenbach sur Radio Présence.
Sportez-vous bien, l'agenda sportif.
L'agenda de la semaine avec vous, Lucas Serdic. On commence comme d'habitude avec le rugby.
Ouais, le rugby, puisque ça va être la dernière journée de top 14, en tout cas de saison régulière, le week-end prochain. Et ça va être un beau multiplex qu'on va pouvoir vivre samedi à partir de 16h05 avec quelques matchs intéressants. Bon, le Stade Toulousain est assuré de finir premier. D'ailleurs, vous avez tous vu ce match absolument décoiffant hier. Oui. face à Bordeaux, mené 36-7. Le Stade Toulousain qui revient en seconde mi-temps, qui claque 5 essais et qui gagne 43-36. Bon, c'était un match qui comptait presque pour du beurre, mais tout de même la performance est notable et c'est en plus un bon petit coup de pression là avant les phases finales. Le Stade Toulousain va peut-être arriver avec un peu moins de confiance. Là en tout cas ils vont jouer face à Perpignan, à Ernest Vallon, un petit peu un match de gala. Ça pourrait tourner à la démonstration, hein. Perpignan qui est relégué et qui est dernier, assuré d'être dernier de ce championnat. Il y aura aussi un match très intéressant à suivre entre Castres et Toulon. Castres 5e et en passe de se qualifier pour les barrages, mais Toulon est encore quelques cartes à jouer, hein. Ils ont battu clairement avec le bonus et la lutte pour ces 6 premières places est vraiment serrée, puisque le Racing est 4e avec 69 points, le CO 5e avec 69 points, Montpellier 6e
qui revient de nulle part,
et La Rochelle 7e, 66 points. Ils n'ont pas envie d'être les dindons de la farce, les Rochelais. Ils accueillent Bordeaux justement, tandis que Montpellier va se déplacer à Clermont, donc c'est vraiment pas fait, et le Racing va jouer à Agen. Bon, le Racing devrait pouvoir s'en sortir, mais entre Montpellier et La Rochelle, ça va être chaud jusqu'à la fin.
En gros, 4 équipes pour 3 places. En sachant que ça va vraiment se jouer entre La Rochelle et Montpellier quand même.
On pense, mais bon, on n'est pas à l'abri d'une surprise.
Le sport, on nous offre énormément.
Le Racing 4e aujourd'hui, qui chute à Agen, les 3 autres gagnent, et puis ils sont 7e, c'est possible encore.
En Pro D2,
on a une finale d'accession qui va être très intéressante à suivre, une vraie belle finale entre Brive et Bayonne. Bayonne qui nous a offert un match génial à Oyonnax, une victoire 38-34. Tandis que Brive a géré, on va dire, contre Vannes, même s'ils ont été en difficulté en début de match, ils se sont imposés 40-20, les brivistes. Cette finale sera à suivre dimanche à 14h. Le vainqueur monte en top 14 à la place de Perpignan et le perdant va affronter Grenoble en barrage, il me semble, la semaine d'après.
Je pense
que c'est ça qui va se passer. On a aussi de la Fédérale 1, les demi-finales retour qui vont se jouer du trophée Jean Prat. Malheureusement,
ça
s'est mal placé. Bon, on pouvait s'y attendre.
C'était logique.
Ça s'est mal passé pour Blagnac, mais pas pour Albi, et ça, c'est une bonne nouvelle. Blagnac a perdu effectivement à domicile face à Valence Roman
37.
Donc au retour, c'est quasiment fichu. Le match retour, ce sera samedi à 19h30. Ouais. Mais dans l'autre match, Albi-Rouen, bonne surprise, puisqu'Albi a gagné 20-9 face à Rouen, qui était présenté comme un ogre, un petit peu, hein, même par Maxime, il le disait. Franchement, c'est encore largement possible. Le match retour, ce sera vendredi à 20h45, et ce sera à suivre sur l'équipe TV, donc c'est quand même intéressant. Et si Albi gagne, tout simplement ils seront promus en Pro D2, un retour,
retour d'Albi,
en Pro D2, ce serait chouette. Pour Albi, on peut parler un peu de rugby à 13.
Oui, bien évidemment.
Vite fait. Parce qu'il y avait une journée intéressante qui s'appelle le Summer Bash. Voilà. En fait, c'est une journée qui est intercalée entre la phase aller et la phase retour. Toutes les équipes de Championship jouaient à Blackpool, les unes contre les autres. Enfin, il y avait un match qui compte comme une journée en plus. Évidemment, alors, hasard ou pas, le TO 13 a affronté Toronto, l'équipe la plus forte, évidemment. Ils ont perdu 42-14. Tant pis. Ça remet pas en cause quoi que ce soit, ils sont toujours deuxième, mais ils vont avoir un match très intéressant à jouer ce week-end face à Leif Thunturions.
C'est Lee, on dit.
Ils sont quatrième et c'est une des seules équipes à avoir battu le TO cette année, c'était au match aller. Donc il va y avoir un match retour intéressant samedi à 14h pour le TO 13.
Un mot de football,
évidemment.
Le TFC s'incline, c'est quand même assez lourd.
Oui, et puis on va essayer de ne pas en faire trop gros parce qu'on en a un petit peu marre, n'est-ce pas? Le TFC qui a joué l'avant-dernière journée et qui s'est incliné à domicile 5-2 face à l'OM, ça ne les empêche pas de se maintenir officiellement puisque dans le même temps Caen a perdu largement à Lyon. Tant mieux pour eux, ils vont pouvoir refaire peut-être la même saison l'année prochaine, on verra. En tout cas, il y aura la dernière journée à suivre avec un match. Ce sera intéressant de voir si Dijon se maintient ou pas. Dijon TFC, vendredi à 21h05 lors d'un grand multiplex. Par contre, moi j'aurais presque mis un coup de cœur sur le multiplex de samedi parce que on a vu beaucoup de buts, on a vu les 4 premiers qui mettaient des roustes. En dehors du fait qu'ils aient gagné largement, c'était quand même sympa à suivre. Beaucoup de buts et on espère qu'il y en aura aussi pour cette dernière journée de Ligue 1, vendredi à 21h05.
Et on le rappelle, il y a un seul enjeu, c'est le maintien. Paris est déjà champion, Lille est assuré d'être deuxième.
Lyon est assuré d'être troisième et minimum tour préliminaire de Ligue des Champions si Chelsea gagne la Ligue Europa. Lyon est en phase de poule. Saint-Etienne est assuré d'être européen et en quatrième place. Les Coupes de France, Coupe de la Ligue pour Rennes et pour Strasbourg qui vont en Ligue Europa. Guingamp est assuré de descendre et ça va jouer entre Amiens,
Dijon et Caen.
Dijon et Caen, Monaco, pas mathématiquement, mais il faudrait un cataclysme pour que Monaco joue en Ligue 2 la saison.
Exactement. Prochaine. Un petit mot de handball et on va commencer par le féminin parce qu'on n'en parle jamais. C'est et vrai. On a un club féminin à Toulouse qui est pas mal, qui est en National 1, donc c'est le troisième échelon, et qui sont encore en course pour monter. Bon, ça va être compliqué puisqu'ils sont à égalité avec Clermont. Il reste une journée, ils ont une différence de but très défavorable. Mais lors de cette dernière journée, il va y avoir un match face au dernier pour les Toulousaines quand les Clermontoises vont jouer face à Bourg-de-Péage, qui est quand même une équipe qui a battu deux fois les Toulousaines. Donc ça veut dire que c'est, voilà, c'est une équipe qui est troisième derrière ces deux-là. Donc il y a moyen pour les filles de monter, si elles gagnent, hein, si elles sont premières de leur poule, elles vont monter en D2. Donc c'est quand même une bonne chose. Un petit mot de handball masculin, on va jouer la 24e journée dans le même temps. Toulouse est un petit peu en roue libre. Là, ils ont perdu à domicile face à Istres 26-28. Voilà, et ils vont jouer mercredi à 20h15 à Chambéry. Bon, voilà, pour les Phoenix.
Il faut parler... Un mot de basket, bien évidemment.
Bah ouais, le basket féminin, parce que voilà, malheureusement. Heureusement, les filles se sont qualifiées pour la finale de D2 face à Charnay en battant Angers en demi-finale 2-0. Mais elles ont perdu le match 1, c'était ce week-end, 70-55 face à Charnay, donc qui était première de la phase régulière.
Le match 2,
ce sera mardi, donc demain soir, à 20h face à Charnay. La place est à 10 €, hein. C'est pas cher, allez les voir, parce que franchement, si elle passe là, il y aura un match d'appui, le match 3 qui sera à Charnay samedi 25 mai à 20h. Allez soutenir les filles pour qu'elles remontent.
Pour conclure, Mehdi Guillonneau,
juste signaler aussi que les garçons qui sont aussi en National 1, le TBC, jouaient aussi un match de playoff,
mais ils ont perdu.
Alors voilà, ils ont fini en gros dans les derniers de la saison régulière, donc ils jouaient, il me semble, le second de la phase régulière. Ils ont perdu seulement 84-77.
Et je suis obligé de dire quelque chose aussi de basket pour les hommes, parce que c'est le début des playoffs et on a Pau notamment qui va jouer le 5e contre le 4e. Donc à Nanterre, ça se joue au meilleur des 5 matchs et quart de finale. Les autres affiches: Villeurbanne-Le Mans, Monaco-Limoges, Dijon-Strasbourg, mais donc Nanterre-Pau. Le premier match vendredi à 20h45 pour ces quarts de finale de Jeep Elite.
Et c'est Monaco qui fait office de favori sur ce...
A priori, mais Lyon-Villeurbanne a fait premier de la phase régulière. Voilà, on verra bien.
On verra bien. Merci Lucas Serdi, au moins c'est complet. Nous, on peut passer maintenant au débat.
Sportez-vous bien. Le débat.
Dimanche débute la 118e édition des Internationaux de France. Après l'Open d'Australie remporté par Novak Djokovic, Roland-Garros est le deuxième grand chelem de la saison, un tournoi où Rafael Nadal est tout naturellement favori. Justement, c'est notre question. On va commencer par parler de Rafael Nadal, bien évidemment. Messieurs, vous commencez à avoir l'habitude, on ne répond que par oui ou par non et on débat ensuite. Est-ce que, tout simplement, l'Espagnol est intouchable? Lucas Serdic.
Intouchable, non.
Non.
Mehdi Guillonneau, Maxime Brossard.
Bon, il est un peu vieux, non?
Et Timothée Rouvière.
Non, pas intouchable.
Bon, vous êtes d'accord, il n'est pas intouchable. C'est vrai que ça, c'est ouvert cette année. Enfin, on le dit souvent, mais là, ça semble ouvert.
Nadal, il n'est pas toujours arrivé très, très en forme à Roland-Garros. C'est peut-être la première année où il a si peu de titres, si peu de références. Mais bon, il vient de battre Djokovic sur terre battue, dans un très beau match. Ah, il a fait un premier set absolument incroyable. Mais bon, on ne sait jamais. Il a toujours son physique qui peut être un petit peu pénalisant. Et puis, bon, Djoko a l'air très en forme. Oui, non, ça reste ouvert. Il y a Tsitsipas qui est en forme. Après, Nadal, ça reste Nadal, quoi. On ne pense jamais, mais il gagne toujours.
Il y a eu 4 tournois sur terre battue, les 4 tournois majeurs sur terre battue avant le Roland-Garros, le Monte-Carlo, Barcelone, Madrid et Rome. Les 4 ont été par des vainqueurs différents. Ça laisse la porte ouverte. Bon, il y a eu le miracle, sans lui faire offense, le miracle Fonini à Monte-Carlo, mais Djokovic et Tim qui a fait demi-finale il y a 2 ans, finale l'année dernière en Roland-Garros, c'est lui le danger numéro 1 de Nadal, où il a aucun adversaire?
Non, pour moi, Dominic Thiem est un bon joueur de terre battue qui a fait ses preuves, mais c'est pas sa surface de prédilection. Pour moi, la finale, je pense qu'on peut déjà l'annoncer, ça va être Nadal Djokovic.
Okay.
Parce que non, Nadal n'est pas intouchable, mais au vu de ce qu'il a montré à Rome et ce qu'il a montré sur les autres tournois, c'est quand même costaud. Ça faisait quasiment il avait pas eu une saison blanche, mais il avait eu une saison très perturbée par les blessures. Il doit avoir près de 31 ou 32 ans, donc il continue à performer à haut niveau. Djokovic revient bien après 3-4 ans un petit peu compliqués. Pour moi, ça va être une finale comme ça, et après Dominic Thiem peut jouer les troubles faits, mais je le vois pas non plus éliminer un de ces deux gros.
Mehdi Guillonneau.
Moi, je suis pas totalement d'accord le fait de se dire que la finale soit d'entrée de Novak Djokovic, Rafael Nadal, parce que contrairement à d'autres années, et ce qu'on voyait pas ces 15-20 dernières années, c'est qu'il y a des joueurs qui sont complètement décomplexés face aux grands joueurs que sont Nadal et Djokovic. Tous les jeunes qu'on a évoqués, j'enlève Tim.
C'est vrai qu'il y a du culot là.
Hein, j'enlève Tim qui est un petit peu plus vieux que les autres, mais on peut parler de Tsitsipas, on peut parler de Zverev, l'étoile montante, bon, même s'il n'est pas encore à ce niveau-là, voilà, mais Ogé Aliassime, le jeune Canadien qui fait sa formation aussi.
Medvedev, gros début de saison.
Le Capouille, bien évidemment.
Non mais c'est des jeunes, on est d'accord, ils sont sur la régularité, ils sont moins bons, et en 3-7 c'est plus dur qu'en 2 parce que Titi
en 5-7 gagnant, oui. C'est exactement ce que j'allais dire. Je suis d'accord avec toi, mais effectivement c'est pas fréquent, mais ça arrive souvent que les gros perdent un set, perdent même 2-7. Mais attention, sur 5-7,
mentalement ils sont toujours indestructibles.
Ils sont toujours là, mais après on n'est pas à l'abri d'une surprise, évidemment.
J'ai oublié Zverev aussi, même si c'est pas sa surface de
compliqué. Zverev, hein, depuis le début de la saison, il confirme pas trop les espoirs placés en lui. Hein.
C'est vrai qu'il fait pas grand chose quand même à Madrid et à Rome.
Hein. Mais c'est pas même son jeu, quoi. C'est un gros servin, un gros frappeur qui a du mal à se déplacer. Et...
De manière générale, ce début de saison est foiré pour Zverev, mais ça n'empêche qu'il est capable de faire quelque chose. On parlait de Dominic Thiem, j'oublierai pas Roger Federer, parce qu'on en parle.
On va en parler, Roger Federer.
Et j'oublierai pas non plus Kei Nishikori qui revient très en forme et qui adore cette surface,
même
et
Fognini,
qui est très difficile à jouer. J'oublierai pas Del Potro parce que il y a un mec qui a vraiment bousculé Djokovic, et lui sur terre battue il est capable de tout. Il y a beaucoup de jolis outsiders, c'est ouvert. Et après on verra.
Même si Rafael Nadal est un peu moins en jambes, ce qui est normal par rapport à son âge, il y a une énorme part de psychologie. Il est dans un tournoi du Grand Chelem qu'il a gagné 12 fois. Donc il a une assurance que aucun autre joueur n'a.
Simplement, il est à la maison. Il est à la maison. C'est pas 12 fois consécutives parce qu'il a, Federer a gagné, je crois que c'était en 2009.
À 12 sur 14, quoi.
Il est chez lui. Il maîtrise absolument, totalement tous les facteurs. Il a dominé tous ses adversaires sur terre battue. Moi, je vois pas Nadal flancher sur ce tournoi.
Lucas Cerdic en a parlé un petit peu. On va parler bien évidemment de Roger Federer. C'est peut-être, on n'est pas à l'abri malheureusement, je touche du bois pour lui, d'une blessure ou voilà, mais d'une fin de carrière parce qu'il arrive sur la fin. C'est peut-être la dernière à Roland Garros. Normalement, c'est l'avant-dernière parce qu'on pense qu'il va terminer pour.
Sera sûrement la dernière.
C'est sûrement la dernière. Là, mais
ça m'étonnerait qu'il prenne le risque de retourner sur terre battue avant les JO. Ouais. Bon, on verra. Hein,
il l'a pas annoncé. Ou alors
il l'a pas annoncé. Il l'annoncera pas avant.
Roger Federer, justement, pour peut-être les adieux à Paris, où on sait très bien que les Parisiens.
Je tiens à dire que c'était que la quatrième fois qu'il abandonnait avant le début d'un match, Roger Federer. Ça n'arrive jamais.
C'est incroyable.
Je sais plus comment, 17 ou 18 ans de carrière là maintenant.
Il a 37 ans.
Voilà, donc
l'objectif de Roger Federer, on parle de Federer, c'est quoi, le dernier carré, ou c'est vraiment loin sur une surface qu'il a un peu de mal, hein.
Je pense qu'il fait jamais un tournoi, il aborde jamais un tournoi sans vouloir le gagner. Après, ce qui est bien avec lui, c'est, enfin, dans sa position, c'est qu'il est totalement relâché. Il a pu jouer sur terre battue depuis 2-3 ans, il a le plaisir en tête et c'est tout. Il a 37 ans, il a plus
rien à
perdre ni à prouver. Et le Federer comme ça, il s'était un peu présenté pareil en Australie il y a 2-3 ans, et c'est là qu'il avait signé son retour, son 18e Grand Chelem, etc. Je dis pas que c'est un candidat très sérieux, mais faut vraiment pas le sous-estimer sur ce tournoi, à mon avis.
On est d'accord pour dire que s'il gagne le Roland-Garros, il rentre encore plus dans l'histoire du tennis mondial.
Ouais, ce sera incroyable.
On est d'accord sur ça. Après, Federer, c'est principalement un joueur de. Alors, c'est un joueur complet, mais il est spécialiste sur du gazon. Donc, à Roland Garros, c'est compliqué. Mais après, comme le dit Lucas, c'est vrai que Federer, on le sous-estime jamais. Et quand il est pas attendu comme ça, c'est là où il est le plus redoutable.
On va terminer sur deux petits sujets. On va parler du grec Tsitsipas. On en a un petit peu parlé, mais on va faire un point dessus. Là, sur la terre battue, il fait finale à Madrid en éliminant Rafael Nadal sur terre battue. Il faut le faire. Et il fait demi-finale à Rome. Il est en très grande forme, justement, parce qu'il n'est pas en trop grande forme avant Roland-Garros sur des matchs à 5-7.
Il est capable de se faire sortir vite, mais il est capable de sortir n'importe quel.
C'est une inconnue, en fait. On ne sait pas, on ne l'a jamais vraiment vu.
Sur terre battue, on ne l'a pas trop vu. Quoi.
Aborder un tournoi, même avec l'étiquette d'outsider aussi prononcée, donc c'est vraiment une inconnue.
On va voir comment il gère la pression, mais c'est vrai qu'il est étonnant, ce grec, on ne l'attendait pas trop, et il performe sur terre.
Il n'a pas un jeu magnifique.
Ah non, c'est pas très agréable de le voir jouer. joué, mais partout, c'est efficace.
Il est complet et il a visiblement un mental très fort, puisqu'il ne se laisse pas déborder par ses émotions.
C'est ce qui compte beaucoup dans le tennis actuel.
Ouais, c'est vrai,
au contraire de Kyrgios.
C'est assez remarquable.
Il est devenu fou, il a montré ses fesses et tout, j'ai vu. Ouais.
Ouais, il a acheté une chaise.
Il a quitté le cours.
Lui, il n'est pas bien.
Il n'aime pas ce qu'il fait. Il n'aime pas le sport qu'il pratique.
Il faut qu'il fasse autre chose.
C'est ça le problème.
C'est le Balotelli du tennis.
C'est un peu ça.
Il faut qu'il fasse autre chose.
Et on va parler, bien évidemment. On parle de Roland Garros, on est obligé de parler des tricolores.
Ah.
Qui bon.
Non, voilà, voilà, oui, ben. Voilà, voilà. La question, c'est ça. Qui?
Mon fils.
Exactement.
Mon fils.
On est d'accord. Il est dans
il
la meilleure
bien.
Forme. C'est le français.
Bah là, il est pas en forme malheureusement, mais il nous a fait quelques tournois incroyables, dont 500 à Rotterdam. Ouais, c'est vrai en plus. Hein, mais c'était très longtemps. C'était il y a 10 ans, mais effectivement.
Tout à l'heure, pour rigoler, j'ai dit Lucas Pouille qui fait demi-finale à l'Open d'Australie, mais sur terre battue, là, c'est le néant, là, Timothée.
Non, mais Lucas Pouille, oui, il fait demi-finale à l'Open d'Australie, mais personne ne sait encore comment il a fait. Lucas Pouille est un très bon joueur de tennis. Le problème, c'est que il est dans une mauvaise période actuellement. Il a du mal à trouver ses repères et ça passe pas. Mon fils, oui, je pense qu'il est épanoui personnellement. Donc tennistiquement, ça peut jouer. Après, je vois pas de son gars,
faut que le physique tienne pour mon fils, voilà. C'est tout. Hein.
Une surprise chez les jeunes, peut-être. Moi, Hugo Humbert me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Ouais,
et
oui,
alors, Aline passer 2-3 tours, ça sera déjà très bien.
C'est ça, ce sera un peu trop jeune là pour l'instant.
On va pas dire que Gaël Monfils est favori, ni va gagner le Roland Garros, on est d'accord. Mais c'est bien le seul Français qui a la fougue et
sur le papier.
Justement qui peut se mettre un stade dans la poche.
Sur le papier, mais ce qui est pas mal avec notre tennis tricolore, quand bien même il est fait de beaucoup de losers, on va dire, c'est qu'il y en a toujours un qui sort du chapeau. Ça arrive qu'il y ait des zéros pointés en 8e ou des trucs comme ça, mais c'est quand même assez rare.
Il y en a toujours un qui.
Et à Paris, a fortiori, j'ai envie de croire à quelqu'un qui nous fait une deuxième semaine, un beau quart de finale.
Chez les filles, on a plus de chance par contre.
Oui, j'allais y venir.
Mladenovic et Garcia.
Timothée revient.
Garcia, je mets un petit bémol quand même parce que ça fait une saison que, 6 mois que c'est un petit peu compliqué.
Ouais, mais c'était l'inverse en début de saison.
Oui,
c'était
oui.
Mladenovic qui était pas bien, Garcia qui était mieux. Donc,
mais Mladenovic revient très très bien. Là, elle s'entraîne avec le coach d'Osaka. Et donc, elle a fait une demi-finale sur le dernier tournoi. Donc, on peut espérer qu'elle figure bien au moins en deuxième semaine.
Rendez-vous dimanche pour les internationaux de France 2019. Ça a déjà commencé les qualifications. Hugo Gaston, le Toulousain, s'est qualifié aujourd'hui, donc on a peut-être encore une chance de le voir dans le grand Roland-Garros, on va dire. Donc voilà, rendez-vous dimanche pour le début de Roland-Garros. Et nous, on se retrouve dans moins de 4 minutes. Nous serons avec notre invité, David Pénèche. À tout de suite.
C'est le monsieur dehors. C'est qu'il aime le bruit des voitures. S'il s'amuse à faire le mort, c'est qu'il joue avec les statues. Et si un jour il a disparu, c'est qu'il est devenu millionnaire. C'est qu'il est sûrement sur une île avec un palmier dans sa bière. Tout va bien, tout va bien. Petit, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Si la voisine crie très fort, c'est qu'elle a pas bien entendu. Si elle a du bleu sur le corps, c'est qu'elle a joué dans la peinture. Et si un jour elle a disparu, c'est qu'elle est partie en lune de miel. En attendant les jours de pluie, elle met ses lunettes de soleil. Tout va bien. Tout va bien, petit, tout va bien, tout va bien, tout va bien, petit, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Si les hommes se tirent dessus, c'est qu'il y a des vaccins dans les balles. Et si les bâtiments explosent, c'est pour fabriquer des étoiles. Et si un jour ils ont disparu, c'est qu'ils s'amusaient tellement bien. Ils sont partis loin faire une ronde, tous entrés, main dans la main. Tout va bien, tout va bien. Petit, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Petit, tout va bien, tout va bien, tout va bien.
C'était Orelsan sur Radio Présence.
Sportez-vous bien. L'invité.
Juste avant de parler avec notre invité, je vous vois Lucas Cerdic avec
la France. On a oublié de dire le seul truc de sympa qui allait se passer à Pau en rugby ce week-end, la finale de Pro D2.
Hormis le fait qu'on a gagné 22-0 contre Grenoble.
Le match de la peur.
Le match contre une équipe de Pro D2.
Magnifique affiche. 8e de finale de Fédéral 2 pour Grenoble.
On a gagné. On va retenir juste ça.
Et vous étiez au stade ?
J'y étais, effectivement, ouais.
Et pourtant, il y a une voix, donc c'est étrange.
Mais le match n'était pas très, très, très beau. Vraiment.
C'est étonnant.
La seule raison pour laquelle le maillot a été mouillé, c'est qu'il n'arrêtait pas de flotter.
Bon, on va parler de notre invité. Notre invité est un ancien arbitre assistant de la FIFA. David Pénèche, retraité depuis avril 2016, a connu les grandes soirées de Ligue des Champions et de Ligue 1. David, bonsoir.
Bonsoir tout le monde.
Merci d'être avec nous sur Radio Présence dans l'émission Sportez-vous bien. Est-ce que comme les joueurs en général se souviennent de leur premier match professionnel ? Vous vous souvenez de votre premier match en tant qu'arbitre professionnel ?
Oui, tout à fait. En août 2004, au stade de la Beaujoire, entre le FC Nantes et le Sporting Club de Bastia, avec un Toulousain sur le terrain à Bastia, Fabrice Jo.
Ah oui, Fabrice Jo.
Et le match s'était bien passé. Il y a du stress aussi. Il y a beaucoup de stress. Même pour un arbitre qui débute ?
Oui, ben, d'autant plus pour un arbitre qui débute. Il n'y en a plus à la fin, un peu comme les joueurs. Hein. Les jeunes joueurs qui rentrent en Ligue 1 sont un peu stressés. Les arbitres, c'est pareil. Puis après, au fur et à mesure des matchs et de l'expérience, le stress disparaît.
Vous avez dit que on vous a présenté comme ancien arbitre. Ça fait longtemps que vous avez arrêté ?
Oui, j'ai tiré ma révérence en juillet 2016, après un match amical entre le Toulouse Football Club et Montpellier Hérault à Rodez. Suite à un certain âge qui fait que physiquement...
Mais j'y étais à ce match.
Eh bien voilà, c'était moi qui ai eu le coup de sifflet, puisque l'arbitre central avait eu la gentillesse pour les deux dernières minutes de me donner le sifflet, et lui avait pris le drapeau.
Et le dernier match officiel, on s'en souvient ? Pareil ?
Non, parce que... En fait,
je crois que c'est un Estac Bordeaux, 3 Bordeaux en 2016. C'est possible ?
C'est fort probable que ce soit ça, mais en fait je ne savais pas à cette époque-là que c'était mon dernier match. Donc du coup je ne m'en souviens pas autant que nos collègues comme Johan Reinsart ce week-end en Ligue 2 à Metz, qui a fêté son départ dignement avec un petit message sur la pelouse écrit à la bombe. Et d'ailleurs je vous invite à aller sur le site de l'UNFP où les joueurs professionnels remercient les arbitres, ce qui est assez rare, et montre l'évolution qu'il y a eu entre... On avance et c'est de mieux en mieux. Les relations sont de plus en plus cordiales et on travaille énormément avec l'UNFP et les arbitres sont de plus en plus les amis des joueurs et inversement.
Justement, hier, il y avait les trophées UNFP. On en a parlé, nous, dans les coups de cœur, coups de gueule avec Lucas Cerdic pour Kylian Mbappé. Mais il y a eu une première hier. C'est Adil Rami, un joueur professionnel en activité, qui donne le trophée de meilleur arbitre à Clément Turpin. Quel est le lien avec les joueurs ? Vous dites qu'il est de mieux en mieux, mais on a l'impression qu'il est quand même assez distant, non ?
Non, il n'est pas distant. C'est qu'en fait, avant, on avait très peu de contact avec les joueurs. Et Marc Batta avait réussi à instaurer en début de saison, l'ancien directeur technique de l'arbitrage, avait réussi à instaurer un passage des arbitres dans les clubs pour présenter les lois du jeu, les nouvelles lois qu'il y avait chaque année qui arrivaient. Et ce contact est extrêmement important parce que ça nous permet de nous découvrir autrement que sur le terrain, avec malheureusement un peu comme le policier ou le gendarme, on est là juste pour sanctionner. Donc quand on est là pour sanctionner, on n'est pas très aimé. Et là, on se rend compte qu'on est des êtres humains pareils, avec les mêmes problèmes que les joueurs, les mêmes vies sociales, familiales. Bon, on n'a pas les mêmes rémunérations, mais voilà, on a les mêmes soucis.
Ça vous humanise, on va dire. Question de Lucas.
C'est tout à fait ça.
Question de Lucas Cerdic.
Oui, parlons un petit peu de technique maintenant. Vous êtes un ancien arbitre assistant. Aujourd'hui, le rôle des arbitres assistants a fortement évolué, notamment avec l'instauration de la VAR. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe justement au niveau des hors-jeux et des consignes qui sont passées aux arbitres assistants de laisser jouer et de lever le drapeau à la fin de l'action ?
Ouais, mais c'est extrêmement compliqué. Je ne sais pas si... Enfin, oui, si, j'y serais arrivé puisque mes collègues qui tournaient avec moi y arrivent.
C'est une question d'habitude.
C'est une philosophie totalement différente, effectivement, et c'est malheureusement ce qui n'est pas suffisamment expliqué, donc oui. C'est très bien que vous en parliez. L'arbitre assistant, dorénavant, doit prendre, comme on dit dans notre jargon à nous, la photo. Donc, au moment où la passe est effectuée par l'attaquant à son partenaire, il doit savoir si le partenaire est hors jeu ou pas. Et il doit laisser jouer. S'il y a une situation de but, il doit laisser essayer de faire en sorte que le but soit marqué. Et si le but est marqué, ou même s'il n'est pas marqué, il doit donner sa décision pour ensuite, lui, être jugé par ses pairs. Donc, savoir si lui, initialement, avait validé la position d'hors jeu ou pas. Et le but étant marqué, ben la vidéo vient valider ou invalider la décision finale de l'arbitre assistant. Donc, s'il avait levé le drapeau, ben on confirme que le but était hors-jeu, ou à l'inverse, on lui dit ben, « tu t'es trompé » et on valide le but. Mais ils sont obligés de laisser. D'où les incompréhensions qu'il y a dans les stades, quand des fois, vous avez, vous, depuis la tribune, l'impression que le joueur est en position d'hors-jeu d'un mètre, qui, en fait, pour nous, au bord du terrain, ben, on a l'impression que c'est quelques centimètres, et quand c'est quelques centimètres, et ben, dans le doute, on doit laisser jouer, on doit laisser l'action. Et ensuite, on doit donner sa décision quand le ballon est au fond des filets. Je comprends que dans les stades, ça pose énormément de problèmes.
Justement, dans les stades, la VAR est utilisée, il n'y a pas les images sur les écrans géants. Est-ce que justement, pour une meilleure cohésion, une meilleure compréhension des décisions arbitrales, il faut mettre les ralentis sur les écrans géants?
Le football n'est pas le rugby. Le public du football n'a pas le même comportement, même si parfois c'est le même public. Bizarrement, quand c'est un stade de rugby, on a un comportement différent que dans un stade de football. Donc là, on est à l'essai, on vient de débuter l'arbitrage vidéo. Pour l'instant, il a été décidé de ne pas mettre les images pour éviter de débordements dans les stades. Avec l'usage de la vidéo, avec un peu plus de temps et d'expérience, peut-être qu'on le mettra. C'est déjà bien de mettre les messages comme il se doit dans le stade, en annonçant, qu'on regarde la vidéo. C'est malheureusement pas suffisamment mis, parce que très souvent, les arbitres sont en lien avec le... Alors non plus le quart, il y a plus que 5 stades, il y a encore un quart. Après, tout le monde est dans le Repay Center à Paris, dans le centre vidéo. Voilà, mais ça serait bien de le marquer encore plus souvent, dire « assistant vidéo », et puis après, quand l'arbitre refait reprendre une touche, ben, dire « pas de faute » ou autre, parce que c'est très 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 souvent utilisé sur un match de Ligue 1, la vidéo, et on le voit que 2-3 fois, on a l'impression. Mais c'est très souvent utilisé. Maxime... Quand un arbitre fait signe d'attendre, les trois quarts du temps, c'est qu'en fait, il attend à l'oreillette
l'oreillette
finale. Voilà.
Maxime Brossard.
Oui, bonsoir. Moi, j'avais une question, en fait, tout simplement, mais avoir votre avis. J'ai l'impression que l'arrivée de la vidéo dans le football, mais c'est positif, non? On peut dire ça cash, quoi. C'est vraiment une bonne chose, non? Selon vous?
Bonsoir. Oui, ben, pour moi, c'est évident, avant on ne pouvait pas trop en parler parce qu'on est obligé de faire avec les lois du jeu. Donc les lois du jeu ne nous permettaient pas d'avoir la vidéo, donc on ne l'utilisait pas. Mais évidemment que tout ce qui peut aider les arbitres, mais à part, peut-être aussi d'ailleurs que si les relations sont bonnes avec les joueurs maintenant, c'est grâce également à la vidéo. Parce qu'en fait, on juge, ils ont des doutes sur notre décision, on a la possibilité de voir la vidéo où on nous confirme à l'oreillette que ce qu'on a vu, nous, arbitres centrales, où les arbitres, les VAR et les assistants VAR dans le cas, est validé. Donc du coup, ben, il y a moins de contestations et on est accepté. Donc pour nous, ça nous humanise, ça nous crédibilise, alors que jusqu'à présent, ben, on était persuadés de ce qu'on faisait, parce qu'on est tous honnêtes, contrairement à ce que certains supporters pensent. On est tous honnêtes, on a tous envie de bien faire. Et en fait, ben, tout le monde devant la télé voyait qu'on s'était trompé pour un hors-jeu d'un mètre, pour un pénalty simplement à l'extérieur ou à l'intérieur de la surface. Ben oui, il y a faute, mais vous citez coup franc. Alors qu'elle est 20 cm dedans, et oui, mais 20 cm à l'allure où volent les joueurs, vous parliez de Kylian Mbappé tout à l'heure,
bah
l'allure
oui,
où
il ouais. va, c'est impossible.
20 cm, vous avez l'impression qu'il est 3 mètres dans la surface.
C'est
et
clair.
Après, des fois, vous apercevez que c'était 10 cm en dehors. La vidéo nous permet de prendre normalement la bonne décision.
La VAR fait quand même débat en France, on entend un peu tout et n'importe quoi, même si elle est bien évidemment utile. Le premier bilan de cette première saison de la VAR en Ligue 1?
Alors, c'est à la direction technique de l'arbitrage de faire le bilan. Le bilan avait été fait déjà à mi-saison. Bon, il était plutôt positif. Alors oui, il y a toujours des erreurs. Hein. Voilà, même si je suis plein d'activité, hein, je suis avec les collègues à fond, on s'est encore trompé sur certaines décisions. Et une méconnue, puisque je suis à la radio, je vais vous livrer un scoop. Le but de Montpellier, PSG par exemple, le troisième but de Montpellier, est totalement invalide.
On est d'accord.
Il n'aurait pas dû être valide. Vous en avez peut-être parlé dans vos émissions. Les lois du jeu prévoient que tous les joueurs attaquants ne rentrent dans la surface de réparation qu'à partir du moment où le ballon en est sorti. Or, le joueur de Montpellier qui revient sur le côté traverse la surface alors que le ballon est encore dans la surface. Oui. Donc, à partir de ce moment-là, le coup franc.
Sur l'erreur de Paredes. C'était sur
l'erreur
de Paredes.
Sur l'erreur de Paredes, tout à fait. Quand Paredes, avant que Paredes contrôle, le ballon est encore dans la surface, vous avez l'attaquant, d'ailleurs, je crois que c'est Andy Delors, qui revient de sur le côté et qui est dans la surface de réparation. Le ballon n'étant pas sorti, le ballon n'étant pas en jeu, il n'avait pas le droit de rentrer. Bon, mais c'est des cas spécifiques qui auraient permis, avec la vidéo, mais bon, c'est tellement inhabituel que on s'est clairement fait avoir et voilà, on s'est loupé. Personne ne sait, donc personne n'en a fait cas, et c'est très bien parce que tout le monde était content, et au final, ça ne changera rien au championnat, c'est pas ça qui va permettre à Montpellier d'obtenir une place européenne ou à Paris d'être champion, donc voilà. Ça permet de découvrir des lois du jeu, un peu comme la tête de Verratti il y a 2 ans, je crois, à Nantes, lorsqu'il se soulève le ballon pour faire une passe en rentrée. Tout le monde est surpris dans la décision, mais c'est les lois du jeu, personne ne connaît. Donc non, la vidéo, c'est très bien.
On a l'impression, pareil, encore une fois, que la VAR était mieux utilisée au Mondial. Alors, c'est parce qu'elle a servi beaucoup plus à l'équipe de France dans le bon sens. Elle a vraiment été mieux utilisée lors de la Coupe du Monde ou pas?
Déjà, au Mondial, vous n'avez pas 380 matchs.
Oui, là, on est d'accord. On est d'accord.
Donc malheureusement, à chaque fois... Mais au Mondial, si je me souviens bien, on l'a beaucoup utilisé.
Hein.
Oui, bien sûr, mais il y aura toujours des erreurs. La vidéo ne permettra pas de tout enlever. Il faut espérer que les erreurs soient peu conséquentes au moment où elles arrivent. Donc ça ne change pas. Je vous parle par exemple de PSG Montpellier. Voilà. Il faut espérer que ce soit des choses qui ne donnent rien qui n'engagent en rien sur le résultat d'une compétition. Maintenant, oui, c'est sur la première phase, donc les matchs de poule, la VAR a été beaucoup utilisée. Et ensuite, à partir des huitièmes de finale, on a très peu vu la VAR. Bon, effectivement, on l'a beaucoup vu en finale et à l'avantage de la France. Donc, plus vous avez de matchs, plus vous avez de possibilités de vous servir de la vidéo et plus vous avez de possibilités de faire des erreurs. Hein. C'est un peu comme quand on parle d'une équipe qui domine en permanence et qui a toujours des pénalties. Mais oui, mais à force de dominer, d'être dans la surface adverse, vous avez plus de chances d'avoir un pénalty que l'équipe qui fait que défendre et qui est toujours devant sa surface de réparation.
On est d'accord.
Donc, c'est la même chose là. On a beaucoup de vidéos parce qu'on a beaucoup de matchs.
Lucas Sardic.
Oui, pour revenir un petit peu sur les arbitres et leur relation avec les joueurs, et même j'ai envie de dire avec le public en général, on voit de plus en plus d'arbitres qui s'expriment dans les médias, des anciens arbitres. On pense à Tony Chaperon à Canal+, et aussi un arbitre aussi qui officie sur SFR et qui décortique plein
c'est
de.
Aiden Jimmy aussi,
voilà. Stéphane Lanois, exactement. Et puis nous, on sent bien que là, on n'a pas de mal à vous faire parler. Est-ce que c'est frustrant quand on est arbitre de pas avoir le droit de parler? Moi, j'ai jamais compris ça. Pourquoi ils n'avaient pas le droit de s'exprimer alors que tout le monde aimerait bien qu'ils s'expriment justement? Et qui se justifient et qu'on leur donne même la chance de reconnaître leurs erreurs quand il y en a. Est-ce que c'est quelque chose que vous comprenez toujours pas aujourd'hui?
On a, je vous disais tout à l'heure, vous me demandiez pour la vidéo est-ce que c'était bien ou pas, est-ce que son arrivée, je vous disais, avant, voilà, on aurait été content qu'elle nous aide pour paraître moins ridicule aux yeux de tout le monde sur certaines situations. Bon, là, c'est pareil, on a des règlements internes à l'arbitrage qui nous disent que sauf autorisation de la part de la direction de l'arbitrage, on n'a pas le droit de s'exprimer. Donc on ne s'exprime pas et on fait avec. Alors oui, des fois on a envie de parler quand il y a une action de jeu que personne ne comprend, on a envie d'aller expliquer pourquoi on a fait ça, pourquoi à ce moment-là on a pris telle décision, pourquoi nous de notre position on a eu l'impression de voir telle ou telle chose. Mais on n'a pas le droit, donc on ne le fait pas. Et quand on est autorisé, comme Johan Hamel sur le Nantes PSG dont je vous parlais avec Marco Verratti, mais voilà, il a eu l'autorisation à la fin du match, il a expliqué. Et la polémique,
ça va dans le bon sens quand même. Ça va dans le bon sens, ce genre de choses.
Oui, bien sûr, ça va, bien sûr, ça va dans le bon sens parce que in fine, ce qu'on décide a toujours une explication. Et c'est pour ça que c'est très bien que Saïd, Tony et Stéphane soient dans les médias. Parce qu'ils sont capables, eux, d'analyser de par nos positions sur le terrain et de la phase de jeu, pourquoi à ce moment-là on prend telle décision, ou on se trompe, c'est pas dire non, ils ne se sont pas trompés, c'est expliquer, oui, sur telle décision ils se sont trompés, mais à cause de ça. Vous avez un Toulousain qui le fait très bien, c'est Dominique Arnand sur Canal+, qui explique très souvent, de manière très claire, très technique, Pourquoi les arbitres se sont trompés, lui, c'est, voilà, c'est un pédagogue de l'arbitrage.
Le 1er juin, pour terminer en une minute maximum, pour terminer, le 1er juin, il y a de nouvelles règles sur le football. En quelques mots, ça consiste en quoi? Il y a les changements, les cartons jaunes pour les remplaçants, les mains, en quelques mots, en quelques secondes.
Il y a 5 points, donc ça va être vite fait. Mais je commence par le plus difficile. La main, lorsqu'il y aura un attaquant qui marquera un but en ayant contrôlé le ballon de la main, systématiquement le but sera annulé. Quel que soit le contrôle est volontaire, pas volontaire, il est de dos, le but sera annulé. Mais attention, je précise bien, c'est uniquement le contrôle de la main de la part d'un attaquant qui marque un but. En aucun cas, ça ne changera le problème des défenseurs qui touchent le ballon de la main et qui entraînera un pénalty. Ça ne changera pas, la polémique continuera.
Il y aura également le changement. Désolé, il nous reste 30 secondes.
Oui, désolé. Tout à fait. Le joueur, le remplacement, c'est simple. Le joueur qui sera amené à quitter le terrain pourra partir n'importe où et non pas par la ligne médiane pour gagner du temps.
Il y a le carton jaune pour les remplaçants.
Le gardien sur un coup de pied de réparation pourra avoir un seul pied sur la ligne et avancer avec l'autre pied. Après c'est un peu c'est habituel, voilà. Un joueur qui sort du mur prendra un avertissement, enfin, qui causera des troubles au mur défensif, c'est-à-dire les attaquants qui viennent gêner le mur, qui se mettent pour empêcher les tireurs de marquer directement, si jamais ils gênent et que ça entraîne des situations conflictuelles, sera averti. Et ensuite vous avez effectivement sur les bancs entraîneur, adjoint, dirigeant, on montrera à tout le monde l'avertissement et l'exclusion.
David Benesch, merci beaucoup merci d'avoir été avec nous sur Radio Présence.
On a plein de choses à dire, les amis.
Merci à tous, à la semaine prochaine sur Radio.
Vous avez envie d'entreprendre, vous êtes chef d'entreprise, cette émission est faite pour vous. Je reçois chaque semaine sur Radio Présence, dans Le Goût d'entreprendre, ceux qui osent et ceux qui innovent en Occitanie.